Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Notre conseil communautaire de rentrée, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'après les grandes vacances que nous avons tous passées, bien sûr, au travail pour la plupart, eh bien c'est la rentrée pour notre collectivité. L'appel d'abord. Qui c'est qui fait l'appel? Ah, Orangerie.
Monsieur Pierre Mallet, Monsieur Moïse Clavé, Monsieur Jean-Marc Tachon, Monsieur Jean-Yves Paronneau, Monsieur Jacques Casablon, Monsieur Christian Sonnet, Monsieur Jean-François Moulian, Monsieur Dominique Clavé, absent excusé, représenté par Monsieur Jean-Michel Lamotte, Monsieur Alain Bentejac, Monsieur Louis Pascal, Monsieur Frédéric Carrère, Monsieur Joël Mallet, Monsieur Jacques Junca, Monsieur Benoît Raymond, Monsieur José Pasquale, Madame Narcisse Lopez, Monsieur Jean-Paul Alire, absent excusé, pouvoir à Monsieur Viltorte, Monsieur Robert Viltorte, Monsieur Alain Vidalis, Monsieur Gérard Apestegui, Monsieur Robert Duezo-Méral, Monsieur Claude Coumat, Monsieur Gilbert Lartigue, Madame Catherine Demem, Madame Geneviève Darieusec, Monsieur Hervé Bayard, excusé, pouvoir à Monsieur Bertrand Tortigue. Monsieur Bertrand Tortigue, Madame Chantal Davidson, Madame Chantal Lutz, absente, excusée, représentée par Monsieur Philippe Hérault, Monsieur Jean-Pierre Pinto, absent, excusé, pouvoir à Monsieur Thierry Socodiabert, Madame Marie-Christine Bourdieu, Monsieur Michel Meige, Madame Eliane D'Arteron, Monsieur Thierry Socodiabert, Monsieur Farid Eba, Madame Chantal Couturier, absente, excusée, pouvoir à Madame Janine Boudet, Monsieur Bruno Rouffia, Madame Claude Taillé, Madame Catherine Dupouille-Ventrepol, absente, excusée, représentée par Madame Annie Hillcock, Madame Catherine Piquet, Monsieur Nicolas Tachon, Madame Janine Lamaison, Monsieur Jean-François Lagouette, Madame Janine Boudet, Monsieur Renaud Lagrave, absent, excusé, Monsieur François Salibartan, Monsieur Didier Clavier, Monsieur Claude Lafargue, Monsieur Michel Garcia, Monsieur Jean-Paul Le Tyran, Madame Françoise Louis, Monsieur Jean-Claude Demongeau, absent excusé, Monsieur Paul Rio, Madame Régine Nellig, Monsieur Bernard Dupin, Monsieur Jean-Pierre Julien, absent excusé, représenté par Monsieur Alain Condon, Monsieur Jacques Ducos, Monsieur Jacques Berbessou, Monsieur Jean-Philippe Prugnot, Monsieur Éric Mezrich, Madame Marilyn Rousseau, Monsieur Julien Paris, Monsieur Jean-Claude Lalagu et Monsieur Richard Lopez.
Merci Lionel. On rit parce qu'un coup je l'appelle Laurent, un coup je l'appelle Lionel. Mais en fait, il s'appelle Lionel. Mais ça, c'est entre nous. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter, je ne pense pas qu'on l'ait fait dans notre assemblée, Antoine Gariel, je lui ai demandé de se lever. C'est notre nouveau directeur des politiques culturelles, qui, donc, pour l'agglomération, et qui est en mutualisation avec la ville de Mont-de-Marsan. Donc il a beaucoup de travail, il a pris ses marques, il est arrivé ici vers le 14 juillet, juste avant les fêtes de la Madeleine, ce qui lui a bien permis de s'immerger immédiatement dans l'ambiance locale, et culturelle, oui. Très bien. Notre conseil, alors je voudrais savoir si vous acceptez, il y a une délibération sur table à propos d'un syndicat de rivière et du syndicat de rivière de la Midouze, qui n'est pas une délibération majeure. Il y a eu une réunion en préfecture en fait assez tardivement le 3 octobre et la préfecture nous a demandé de passer cette délibération le plus rapidement possible. Donc on vous propose de la mettre sur table. Est-ce qu'il n'y a pas de problème particulier? Et vous avez sur table aussi une délibération à substituer, la numéro 24, celle qui vous a été envoyée, comportait une omission que nous avons, qui est donc rectifiée sur celle-là. Propos introductifs. Bon, notre conseil, il y a beaucoup de délibérations techniques, mais avant de commencer l'ordre du jour, bon, je voudrais quand même vous dire qu'on peut être fier au niveau de l'agglomération, de notre agglomération, puisque vous l'avez lu, je pense, là, on vous l'a fait savoir, mais je voudrais le dire à tous, la fierté qu'on peut avoir que notre médiathèque ait été élu meilleur bâtiment culture et a eu le prix du meilleur bâtiment culturel et le prix du meilleur bâtiment de l'année, toutes catégories confondues. Un prix international, c'est un prix décerné par les Emirats Glass Leaf Awards. Bon, m'en demandez pas plus. Je sais que c'est un prix qui est quand même excessivement couru par les architectes et qui... juge porte un regard sur tous les bâtiments nouveaux qui peuvent se faire dans le monde entier. Donc on peut être fier que Mont-de-Marsan ait été mis à l'honneur et le Marsan agglomération avec cette belle réalisation qui a donc eu le prix du meilleur bâtiment de l'année, toutes catégories confondues. C'est quand même pas neutre. Et je pense que nous en avons déjà, mais nous aurons beaucoup de visites d'équipes d'architectes dans ce bâtiment. Par ailleurs, vous dire que nous avons, je vais vous parler de quelques dossiers qui me paraissent importants. Cet été, au mois de juillet, nous avons connu la décision du gouvernement concernant la LGV, les LGV dans le pays. Et bien entendu, c'est des choses qui pointaient depuis quelques mois, qui nous ont pas... moi, je ne suis pas tombée de la chaise parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une espèce de préparation depuis quelques mois à cette espèce d'évolution. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de cette décision et dire qu'on la trouve heureuse. On peut comprendre que dans ce pays, nous avons des difficultés économiques, des difficultés budgétaires fortes. Mais j'avoue que je suis un peu dans l'incompréhension d'une telle décision, puisque, vous le savez, Bordeaux, GPSO est coupé en deux, dirons-nous, avec Bordeaux-Toulouse qui va se réaliser. Et Bordeaux, Espagne, qui est envoyée au calende grec, sachant que c'est un peu incompréhensible dans la mesure où ces deux voies avaient un tronçon commun, pratiquement jusqu'à Capsieux, et qu'il paraît compliqué de les diviser, et il était même impossible de les diviser d'ailleurs, puisque c'était un même dossier qui a été porté en même temps par RFF. Enfin, par GPSO, pardon, et RFF, donc, oui, puisque nous avons eu de très nombreuses réunions à ce sujet. Donc, c'est vrai que cette annonce a un peu déstabilisé. Alors, elle est incompréhensible aussi en termes de prospective, hein, puisque couper complètement toute liaison européenne est, à mon sens, pour l'avenir, quelque chose de très préjudiciable, avec l'Espagne et le Portugal, voire même le Maghreb. Ça ne va pas du tout dans le sens d'un pays dynamique, ni d'une Europe dynamique ou dynamisée. Et bien entendu, si l'on peut comprendre que le coût des infrastructures est quelque chose de majeur à envisager pour un pays, On peut aussi comprendre, il me semble, que dans une époque de crise, une période difficile, l'investissement dans ce type de grosses infrastructures est véritablement un investissement qui d'abord crée de l'emploi pour créer ces infrastructures dans un premier temps, et ensuite assure l'avenir du développement des territoires. Deuxième enjeu, c'est bien sûr l'enjeu environnemental qui est complètement bafoué dans cette décision. Et enfin, moi j'avoue que tous les prétextes économiques, financiers qui sont mis en exergue, je crois que ce sont de mauvais prétextes dans la mesure où il peut exister des solutions financières innovantes qui pourraient être mises... vous savez, vous pouvez faire du financement participatif de la population, vous pouvez... Enfin, il y a des tas de solutions pour arriver à financer ces grosses opérations. Et je crois que toutes les pistes n'ont pas du tout été recherchées, quoi qu'il en soit. Ça a quand même des retombées importantes pour notre collectivité. Je sais qu'en ce moment, il y a des discussions pour essayer de faire en sorte que la LGV se poursuive quand même jusqu'à Dax. Alors bien sûr, je soutiens ce type de solution, mais qui me paraît excessivement provisoire. En tant qu'élu au Marsan, on pourrait s'en réjouir, bien sûr. On pourra se réjouir si ça se concrétise un jour. Mais si l'on veut voir un petit peu plus loin que notre territoire, moi je trouve qu'on n'est pas du tout dans l'esprit de ce que cette LGV devait amener comme moyen de transport européen, voire même régional et national. Donc on est vraiment en dehors des clous, complètement. Ceci dit, alors bien sûr, je crois qu'on en a parlé en bureau des maires, tout le monde partage ici cet avis, dans cette assemblée, ou très majoritairement cet avis. Par contre, se pose bien sûr le problème du financement qui est attendu de notre part pour Tour Bordeaux. Et il y a beaucoup de collectivités en ce moment qui sont en train de voter pour signifier leur volonté de suspendre leur participation au financement de Tour Bordeaux, et des collectivités qui avaient commencé à abonder très largement Tour Bordeaux, comme par exemple le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Nous en avons parlé déjà ici en bureau des maires pour convenir qu'il n'était pas nécessaire pour nous de faire forcément une délibération. Notre position, elle est déjà connue. Et nous avons déjà suspendu nos versements, notre participation depuis 2011. Parce que, depuis 2011, je sentais bien une évolution et une évolution dans ce dossier, ou du moins des discours qui laissaient apparaître les difficultés que nous connaissons maintenant. Alors, moi, je veux qu'on soit solidaire de la démarche des autres élus, et qu'on soit tous solidaires ensemble, puisque comment justifier que des collectivités d'Aquitaine participent au financement de ces travaux alors que Bordeaux-Espagne, qui nous intéresse directement, est suspendue? Contre toute logique d'aménagement, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui est impensable. Alors je crois même que la raison d'aller jusqu'à Dax, c'est parce que Cap-Sieu-Dax sera facile à réaliser, que ce n'est pas le tronçon qui coûtait le plus cher, loin de là, et que ça permettrait d'apaiser certaines velléités de collectivités de ne pas participer à Tour Bordeaux. Mais enfin, moi, il nous faudra des garanties qui soient vraiment des garanties, certaines, oui, ça, qui soient véritablement inscrites dans le marbre pour que nous puissions justifier cette participation à Tour Bordeaux. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Ce qui me fait dire aussi que Tour Bordeaux ne va pas avancer beaucoup plus vite, c'est que, et je me demande ce qui est en train de se préparer, c'est que j'en suis certaine, que l'enquête publique pour Bordeaux-Toulouse allait être retardée après les élections municipales. Normalement, cette enquête publique, elle aurait dû porter sur GPSO dans son ensemble et elle aurait dû démarrer au mois d'octobre. Donc, je ne sais pas si l'enquête publique, elle va être, vont repartir dans un dossier différent avec uniquement Bordeaux-Toulouse. Ou s'ils sont en train de désosser le dossier donc pour identifier uniquement Bordeaux-Toulouse. Ou si ce dossier va être présenté avec également l'autre partie de GPSO, donc Bordeaux-Hendaye, je vous avoue que à l'heure actuelle, je n'ai pas plus de renseignements sur cette évolution. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour tout ça. Alors, moi, je crois que dans cette perspective qui est quand même pas très réjouissante pour notre territoire, je crois qu'il faut qu'on poursuive le travail afin de rechercher tous les moyens de désenclavement de ce territoire du Marsan et certainement des Landes en général. Et moi, je crois qu'il faut... je vous propose que l'on puisse écrire au ministère de la Défense pour travailler sur une possibilité qu'on peut entrevoir sur le territoire. Vous savez que nous avons ici la base aérienne qui a une piste d'atterrissage et de décollage qui est particulièrement importante puisque c'est une des plus longues de France. Et il y a des territoires français comme Cognac, Mérignac, Toulon, Dijon qui ont sur des aéroports militaires une activité civile. Il est temps, je crois, vraiment de demander au ministère de la Défense si nous ne pourrions pas avoir ici, sur Mont-de-Marsan, une activité civile et commerciale sur la base aérienne. Alors, pas dans la base, mais ce sont des infrastructures à créer à côté, afin de pouvoir profiter quand même de cette infrastructure que nous avons, qui ne serait pas du tout à construire, et qui pourrait permettre quand même un transport aérien qui pourrait être intéressant, peut-être sur Paris, peut-être sur d'autres endroits de France, voire à l'étranger. Et il faut savoir que ces aéroports, Agen a un aéroport, Périgueux a un aéroport, enfin, ce sont Bergerac a un aéroport. Ce sont ces petits entre guillemets aéroports qui permettent aussi lorsqu'il y a une absence totale d'autres grosses infrastructures de pouvoir aider les territoires à se développer et faciliter bien sûr les déplacements. Donc alors je sais que cette idée elle avait été Alain Vidalis l'avait à une période évoquée. Je sais aussi que le président Emmanueli l'avait évoqué, parce que ce n'est pas quelque chose qui serait porté uniquement par l'agglomération, bien entendu. Il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour un tel dossier. Mais je crois qu'il faut activer toutes les pistes qui puissent nous permettre de développer, de désenclaver notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier LGV. Ce que l'on peut travailler sur une éventuelle évolution vers aussi la voie des airs. Mais il me semble que c'est indispensable à l'heure actuelle de pouvoir diversifier les déplacements ici dans le Marsan, dans l'est des Landes, une partie du Gers d'ailleurs, puisque une partie du Gers vient ici aussi sur Mont-de-Marsan. Voilà. Ça me paraît important au moins de poser la question de la faisabilité de la chose. Vous parlez aussi de notre... c'est quelque chose que j'ai lu très récemment le journal Sud-Ouest, qui parlait de Homoco et qui disait que le projet commercial de Homoco avait été abandonné et qu'il était envisagé de créer une agropole. Alors franchement, ça c'est une excellente idée. J'en avais d'ailleurs, lors de mon dernier entretien, rendez-vous avec le président Emmanueli, on avait abordé un petit peu ce thème, et franchement, je pense que c'est véritablement quelque chose qui sera excessivement porteur, entre Saint-Pierre-du-Mont et Delpeyrat et Saint-Sevé, avec... tout ce qui est lié au poulet fermier landais, voilà, excusez-moi, je cherchais le terme, à Benke, où se trouve l'INRA avec des unités de recherche, avec Maïsadour au milieu, les unités de recherche aussi de Maïsadour qu'on avait inaugurées il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois véritablement que l'évolution de cette zone vers une activité d'agropole à laquelle notre collectivité peut aussi participer, puisque en face de la zone en question, il y a quand même Benke, et que entre, je crois véritablement que ça peut être dans les domaines précis de la volaille, du canard gras, du maïs, enfin que sais-je, tous les thèmes qui pourraient être porteurs dans une agropole de ce type, il y a tous les ingrédients pour pouvoir développer un projet véritablement intéressant et structurant pour l'activité de notre territoire. Donc moi je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle et que nous devons nous aussi travailler avec les autres collectivités et le département à pouvoir développer ce type de projet. Bon, voilà pour les sujets d'aménagement qui me paraissaient intéressants. Et dans notre ordre du jour, nous avons aussi plusieurs délibérations, alors qui sont techniques, c'est des ventes de terrain pour le boulevard Nord. Je voulais vous informer que le boulevard Nord avance très bien. Il avance même plus vite que nous l'avions prévu au départ. Qu'une ouverture, je pense, du tronçon entre la base aérienne et la route de Canenx, donc de cette première grande tronçon d'un kilomètre 7, pourra être réalisée, l'ouverture en janvier, vraisemblablement 2014. Donc je crois que nous avons là une voie structurante pour notre territoire, et bon, il faut ensuite que nous, bien sûr, poursuivions de l'autre côté, et que nous aurons là une belle voie structurante pour aller de l'est à l'ouest de l'agglomération de façon plus aisée. Autre grand chantier qui va démarrer très rapidement, je crois au mois de novembre, le 12 novembre même, c'est une date très précise, c'est le pôle d'échange multimodal à la gare, avec les services sont actuellement en phase de préparation du chantier avec les entreprises sélectionnées. Les travaux d'assainissement ont été réalisés l'été dernier par la Régie des Eaux. Les enfouissements des réseaux et d'éclairage sont en train d'être terminés en coordination avec le SIDEC. Et les travaux à proprement parler vont se dérouler en trois phases. La première, c'est l'aménagement de la zone des quais de bus et parkings longue durée. Alors ça se fait, vous savez, il faut démolir l'ancienne halle de la CERNAM et du bâtiment technique des équipes de la SNCF. Ça ne va pas du tout gêner au niveau de la gare, et ça va se faire entre novembre 2013 et avril 2014. Une deuxième phase avec l'aménagement du parvis devant la gare et du parking courte durée, qui sera de mai 2014 à octobre 2014. Et la troisième phase avec l'aménagement du boulevard et des marches du talus. Ça, ce sera de novembre 2014 à juin 2015. Voilà, alors on aura un pôle d'échange multimodal qui sera, je crois, intéressant. 155 places de stationnement longue durée, gratuites bien sûr, 23 places de courte durée, 9 places de dépose minute, des places pour les taxis, des places pour les loueurs de voitures, des places pour les vélos bien sûr, des places pour les employés de la gare bien sûr. Et surtout une kyrielle de quais de bus qui nous ont été demandés par le Conseil Général, avec 16 quais scolaires, des quais de bus aussi pour les transports régionaux, départementaux et pour les transports, bien sûr, urbains. Donc voilà, c'est un joli projet avec d'un coût de 7,5 millions, avec un plan de financement qui prévoit une aide de la région à hauteur de 23%, soit 1,7 million, de l'État et du département à chacun à hauteur de 9%, dont 674 000 euros. Et nous espérons, nous sommes en train de finaliser, la décision va se faire vendredi, des fonds FEDER à hauteur de 25%, soit 1,8 million. Ce qui serait, voilà, ce dossier FEDER, il était classé en priorité 2. Et nous avons pu obtenir un avis favorable de la commission de transport de la préfecture de région pour qu'il passe en priorité 1. Bon, si vous voulez, il y avait des projets FEDER qui étaient en priorité 1, mais qui n'allaient pas se réaliser avant 2014, puisque cette génération de fonds se termine en 2014. Donc ils ont été annulés, ce qui nous a permis, nous, de passer en priorité 1, puisque notre projet, il est prêt, il va être lancé là, donc il rentre dans le... dans les dates et aussi dans les projets jugés prioritaires. Donc voilà, on doit avoir vendredi ce résultat du FEDER, ce qui fait que si nous avons les fonds FEDER, l'agglo participera dans ce projet à hauteur de 2,6 millions. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire comme... Parce que c'est quand même des très gros projets qui concernent, structurants, qui concernent l'agglomération. Et il me semblait important de vous informer, parce que j'en parle en bureau des maires, mais autant en informer tous les conseillers communautaires lors des séances plénières. Bon, y a-t-il des commentaires sur ce que je viens de dire? Des avis, enfin... Très bien. Bon, on va commencer notre conseil alors. L'approbation du procès verbal. Ah, monsieur Ducos. Page 20, monsieur Ducos, je m'y rends immédiatement. Parlez dans le micro, s'il vous plaît.
Je double avec la deuxième. Ça doit être un problème de frappe. En fait, il faut commencer à ceux qui me posent problème, parce qu'après, on retrouve une partie de la deuxième phrase. Et sur la troisième ligne, par ailleurs, on a un local qui est financé par la ville de Saint-Pierre-du-Mont.
Effectivement, il manquait un mot. Oui, ça ne voulait pas dire grand-chose. Merci. Ce sera noté. Y a-t-il d'autres... S'il n'y en a pas, je vous propose d'approuver ce procès-verbal. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Il est adopté à l'unanimité. Le compte-rendu des décisions. Alors, entre le 17 juin 2013 et le 5 septembre 2013. Alors, il y a plusieurs types de décisions qui concernent l'avenant au bail commercial avec M. Christophe Vergès. La location des locaux à Bostens pour M. Vergès. Une MAPA, des MAPA à propos de la zone d'activité Mamora Ménagement Paysager. Enfin, je ne vais pas tout lire. Est-ce que vous avez des questions ? Les attributions de fonds de concours 2013 à chaque commune. Différentes études. Les désavenants, oui, sur les travaux de réhabilitation de l'Érial de la Rousse. Bon, c'est pas beaucoup de... Il y a des moins, il y a des plus. C'est des choses qui s'équilibrent à peu près. C'est pas grand-chose. L'étude relative au transfert et à la mise en œuvre de la compétence scolaire et centre de loisirs sans hébergement. Alors vous avez tous reçu un courrier. Hein, vous allez être contacté prochainement par les personnes de Éco Territorial qui sont qui est le bureau d'études retenu pour nous accompagner là-dessus. Je vous remercie de leur répondre avec précision, puisque cette étude quand même est importante, il faut qu'elle soit bien réalisée afin que l'on puisse, nous, après élus, prendre nos décisions, bien sûr, sur ce transfert ou ces transferts, enfin voilà, ce que l'on souhaitera transférer en toute connaissance de cause. Voilà, y a-t-il d'autres, oui, des subventions de l'OPA-RU? Bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Pas de questions particulières. Très bien. Alors, nous allons commencer nos délibérations. Le contrat de délégation de service public pour l'exploitation des transports urbains avec un avenant. Alors, c'est un avenant assez simple. Il y a deux points. Le premier point qui consiste à changer le nom du délégataire. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué, puisque le groupe Veolia Transport Transdev a changé de nom et s'appelle désormais Transdev. Donc la société Veolia Transport du Marsan s'appelle depuis le 13 juin Transdev du Marsan. Voilà. Et deuxième remarque dans cet avenant, il s'agit de la prise en compte d'une desserte supplémentaire donc pour les écoles de la ville de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, puisque l'aménagement des rythmes scolaires a été décidé par la commune de Saint-Pierre-du-Mont pour la rentrée 2013. Il faut créer une desserte supplémentaire pour les écoles Jules Ferry et du Biarnès le mercredi matin et le mercredi midi, soit deux rotations supplémentaires par semaine. Et cela a un coût global de 7 747,20 € qu'il faut ajouter, bien sûr, au contrat que nous avions... aux engagements financiers que nous avions sur les réseaux, le réseau. Puisque je vous rappelle que tout ce qui est transport scolaire urbain, Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, est à la charge de l'agglomération et les transports scolaires des communes rurales est à la charge du département. Pas de questions particulières ? Y a-t-il des avis contre, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite la communication du rapport du délégataire au titre de l'année 2012, justement sur les transports urbains. Alors je ne sais pas si vous avez tous lu ce rapport, qui est complet et assez simple de lecture. Bon, que vous rappelez sinon que dans l'année 2012, le TAD, transport à la demande, a été lancé le 7 janvier 2012, que cette année 2012, elle est divisée en deux, en fait, pour le délégataire, puisque jusqu'au 8 juillet 2012, c'était l'architecture de l'ancien réseau, le TUM, et qu'à partir du 9 juillet, nous avons eu l'inauguration du nouveau réseau TEMA, avec l'ouverture de l'agence commerciale. Donc ce n'est pas une année pleine du nouveau réseau, c'est une année scindée en deux. Je ne vais pas vous rappeler la nouvelle offre de transport, puisque vous la connaissez, je pense, ainsi que les tarifs qui nous sont rappelés dans le document. Les équipements, les travaux d'aménagement du nouveau dépôt ont débuté, se sont terminés en avril 2012. Que le parc est constitué, alors avant la mise en service du réseau TEMA, le parc était constitué de 18 véhicules. Et que tous les véhicules, non attendez, avant la mise en service, oui non, ça doit être une erreur, je ne sais pas, il y a 18 véhicules en tout cas. 4 minibus, 4 minibus, 10 minibus. À l'heure actuelle, il y a 18 véhicules. C'est une erreur ce que je dis. Que la société, il y avait 19 personnes qui ont été recrutées pour le nouveau réseau, hein, puisqu'il y avait 20 personnes sur l'ancien réseau TUM et 19 personnes supplémentaires ont été recrutées en CDI. Pour le nouveau réseau, que sur le plan social, alors ça je l'ai lu, bien entendu, la politique sociale, comme convenu dans le contrat de délégation, la convention collective qui s'applique à la société est celle des transports publics urbains de voyageurs, qui n'est pas du tout la même que... les transports départementaux, par exemple, et que le nombre de voyageurs comptabilisés sur l'année 2012 se répartit. Alors, il y a 155 000 voyageurs sur la partie des 6 mois du réseau TUM, 227 000 sur le réseau TEMA du 9 juillet au 31 décembre, 37 000 voyageurs sur le réseau Fête de la Madeleine et un peu moins de 1500 sur le transport à la demande. Alors, tout ça, c'est en 2012. Hein. Donc, il y a 421 000 voyageurs qui ont été comptabilisés en 2012. Alors, si vous voulez, pour comparer, alors ce n'est pas dans le rapport, mais j'ai quelques chiffres. Si on veut comparer l'ancien réseau sur 12 mois d'exploitation, l'ancien et le nouveau réseau, sur 12 mois d'exploitation, donc du 9 juillet 2011 au 30 juin 2012 pour TUM et pour TEMA du 9 juillet 2012 au 30 juin 2013, pour le TUM, il y avait 314 700 voyageurs et pour le TEMA, 581 000 voyageurs. Donc il y a une très forte augmentation de la fréquentation. Bon, et les lignes A et B sont les deux lignes principales qui concentrent à elles seules 53% de la fréquentation du réseau, ce qui montre bien que d'abord ce sont les lignes les plus structurantes, puisqu'elles vont dans toutes les zones d'emploi, et ce sont aussi les lignes avec une fréquence accrue, donc elles sont attractives, bien entendu, pour le voyageur. Bon, voilà un petit peu, et les ratios techniques du réseau entre le TUM et le TEMA pour les 6 mois pour l'un et 6 mois pour l'autre. On a des kilomètres commerciaux, il y en avait 170 000 pour le TUM, il y en a 323 000 pour le TEMA. Et le coût moyen par kilomètre était de 3,97 € pour le TUM et est de 3,31 € pour le TEMA. Donc je pense quelque chose qui est plus certainement mieux maîtrisé et plus intéressant pour notre collectivité. Bon, voilà un petit peu. Moi, je vous fais une synthèse très rapide, mais si vous avez des commentaires à faire sur ce document, des questions à poser, j'y répondrai si je peux y répondre. Pas sur des aspects très techniques, je ne pourrais pas, mais sur des aspects généraux, oui. Il n'y a pas de questions ? Bien. Ça se vote ?
Non.
Ah bon. C'est une information, vous prenez connaissance. Et c'est passé en commission des services publics locaux, puisque nous sommes tenus de, bien sûr, réunir cette commission et présenter ces dossiers. Alors, nous avons maintenant un certain nombre d'acquisitions justement pour le boulevard Nord dont je vous parlais tout à l'heure. Une acquisition de parcelles auprès du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Alors, nous avions pris une délibération, je crois. Voilà, on les avait. Voilà, les quatre premières, on les avait déjà prises. Et après arpentage, il s'avère que les mètres carrés n'étaient pas les bons. Et que, par exemple, pour ce qui est de l'emprise foncière du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, nous avions besoin pas de 46 000 mètres carrés 600, mais de 38 000 mètres carrés. Donc, nous avons le coût de l'acquisition est bien sûr diminué, en gardant bien sûr la valeur au mètre carré par parcelle qui demeure inchangée. Donc, le montant de l'acquisition pour l'hôpital se monte à 573 486 €. Le prix des domaines correspond bien sûr. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. L'emprise foncière suivante. Il s'agit d'une acquisition d'une parcelle auprès de Madame Amélie Dantel de 824 mètres carrés. Donc là, on a augmenté la surface. C'était 714 auparavant. Donc l'augmentation de la surface porte le montant de l'acquisition à 20 600 €, conformément à l'avis des domaines en date du 10 septembre 2013. Des avis contre ? Des abstentions. C'est adopté à l'unanimité. L'emprise foncière du boulevard urbain Nord, toujours pareil, acquisition de parcelles auprès de l'Office public de l'habitat. Alors là, les anciennes superficies, c'était 8500 et en fait, il en faut 29900. Donc, c'est plus pareil. Donc, bien entendu, là aussi, nous avons le prix des domaines. Et pour ces 29 898 mètres carrés, le prix d'acquisition est de 242 369 euros. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. L'acquisition de parcelles Saint-Sevin. Ça, c'est pour la deuxième partie. L'office public aussi, d'ailleurs. Là aussi, les anciennes superficies en mètres carrés étaient de 8540 mètres carrés. En fait, il en faut 10293. Après le document d'arpentage qui ont été établis par le géomètre expert. Donc le prix d'acquisition est de 72 051 euros. Confirmé par les domaines. Je vérifie. Oh, c'était la vanneur vénale, ça. Y a-t-il des questions ? Des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne l'acquisition de 12 parcelles auprès de la commune de Mont-de-Marsan. 49 298 euros estimés, mètres carrés, pardon, estimés par les domaines à 188 000 euros, je crois. Mais que la ville de Mont-de-Marsan vous propose de céder à l'euro symbolique, vu l'intérêt du projet. Pas d'avis contre pour l'euro symbolique. Pas d'abstention. Je vous remercie. L'emprise foncière, ben oui, mais... Et l'agglomération remercie la ville de Mont-de-Marsan. En fait, il faut le dire. L'emprise foncière du boulevard urbain Nord. Acquisition de parcelles donc auprès de la Société nationale immobilière, la SNI. Il s'agit donc d'acquérir. Alors, il s'agit donc d'acquérir une parcelle. Je n'ai pas le mètre carré, le nombre de mètres carrés, excusez-moi, je cherche. Pardon ? 2780, je l'ai en bas, excusez-moi, 2780 mètres carrés, moyennant le prix de 32 787 euros, conformément à l'avis des domaines. Conformément à l'avis des domaines, mais oui, mais... Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas grand monde qui veut céder des terrains pour rien à l'heure actuelle. Oui, oui, mais alors sachez tout ça que c'est dans une enveloppe qu'on avait votée au budget hein, pour le boulevard Nord qui est inscrite au budget et c'est dans la même enveloppe globale. Hein, il n'y a pas de modification de l'enveloppe. Hein. Emprise foncière, donc toujours pareil, acquisition d'une parcelle auprès de la copropriété de la résidence Hélène Boucher. Alors là, c'est pas grand-chose. Il y a 27 mètres carrés et 1350 euros. Il n'y a pas de petit profit. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Ben voilà, je crois qu'on a acheté pas mal de terrain. Mais je vous le redis, hein, l'enveloppe, elle a été votée dans le budget initial et tout cela rentre dans cette enveloppe. La dixième délibération concerne un protocole d'action, d'accord transactionnel entre le Marsan Agglomération et la société Colas dans le cadre de travaux d'aménagement de l'entrée ouest de la ville de Mont-de-Marsan. Claude Lafargue, je vais me reposer un peu.
Le Marsan Agglomération attribue le 20 octobre 2010 le marché public 50-10 au groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Cola Sud-Ouest, Sacer Atlantique et Baptistan dans le cadre des travaux d'aménagement de l'entrée ouest de la ville de Mont-de-Marsan, lot numéro 1, voirie et réseaux divers. La société Colas étant mandataire du dit groupement, la réception de ces travaux a eu lieu le 28 octobre 2011. Cette réception a été assortie de réserves, notamment sur le point suivant, enrobé végétal, faïençage constaté. La prestation ne présente pas les garanties nécessaires à sa réception. En l'état, une réfaction pour l'aspect esthétique sera appliquée. Un engagement de l'entreprise est attendu sur la pérennité de l'ouvrage, selon une procédure validée par le maître d'œuvre. Par décision en date du 19 septembre 2012, le maître d'ouvrage a maintenu la réserve dans les termes suivants. Correction des imperfections et malfaçon indiquée à l'annexe numéro 1 jointe à la décision avant le 30 avril 2013. Remplacement enrobé végétal par col clair. Après plusieurs échanges entre la collectivité maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, groupement des scènes de ville Ingérop et l'entreprise Colas, il est apparu que le remplacement de l'enrobé végétal présentait trop de contraintes sur le plan technique. La reprise complète de l'enrobé risquait d'avoir un impact négatif très important sur les aménagements paysagers et que, par conséquent, la réserve ne pouvait pas être levée en l'état. Face à cette situation, les parties ont arrêté le principe d'une transaction sur la base suivante. Le Marsan Agglomération s'engage à ne pas maintenir la réserve liée à l'enrobé végétal. En contrepartie, l'entreprise Cola Sud-Ouest s'engage à réaliser à ses frais des travaux de voirie sur les deux rues suivantes situées dans le périmètre à l'entrée ouest de la ville de Mont-de-Marsan, rue Lalanne et rue des Forgerons. Ces travaux sont évalués à 30 000 euros TTC. D'où la délibération qui suit concernant cette transaction.
Merci Claude. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la mise à jour de la composition des commissions communautaires. Oui, alors c'est à la suite du changement des conseillers communautaires au sein de la commune de Saint-Perdon. Il faut que nous mettions à jour la composition des différentes commissions. Et je vous propose donc les délégués suivants de la commune de Saint-Perdon pour siéger dans les différentes commissions communautaires. Alors Paul Rio dirait que c'était les mêmes qu'auparavant, mais je vais quand même lire leurs noms. Pour la commission action sociale, Monsieur Bernard Dupin. La commission aménagement du territoire, Jean-Louis Dariotor. La commission culture, Bernard Dupin. La commission développement économique, Régine Nellig. La commission environnement développement durable, Jean-Louis Dariotor. La commission finances, Paul Rio. La commission habitat logement, Michel Labarthe. La commission tourisme communication, Jean-Louis Dariotor. La commission transport, Bernard Dupin. La commission voirie, Michel Labarthe. Et la commission locale d'évaluation et de transfert des charges, Paul Rio. Ça se vote, ça ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne des... Alors ça, c'est... J'aime beaucoup ce genre de délibération. On prend beaucoup de papier. Pour quelque chose d'évident, dont la modification de la domiciliation de l'office de tourisme et donc de ses statuts. En fait, depuis le 15 décembre 2012, l'office de tourisme est domicilié au 1 place Charles de Gaulle à Mont-de-Marsan. Et il faut que, afin que ce changement de domiciliation soit effectif au registre du commerce et des sociétés auprès des tiers, il faut que modifier les statuts de l'établissement de l'EPIC. Et plus particulièrement l'article 15. Et l'article 15, il dit tout simplement qu'il est domicilié au 1 place Charles de Gaulle à Mont-de-Marsan. Voilà, c'est tout, hein, Jean-Claude. J'aurais pu te laisser lire ça. Hein. C'est très vite, mais voilà. Donc, ben justement, changement d'adresse. Donc, il faut que nous délibérions pour ça. C'est obligatoire dans les statuts de l'EPIC, il est obligatoire que nous délibérions sur ce type de choses. Donc, pas d'avis contre, pas d'abstention, une évidence pareille. D'ailleurs, puisqu'on a cette délibération sur l'office de tourisme, je vais juste vous dire rapidement qu'on a connu un bilan touristique assez intéressant sur le territoire. Puisque l'office de tourisme a connu une hausse de fréquentation de près de 30% par rapport à 2012, ce qui est quand même excessivement important, avec entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013, l'office de tourisme a renseigné près de 23 000 personnes. Et selon les prévisions, il devrait atteindre 27-28 000 personnes d'ici la fin de l'année. Alors quand on dit renseigner, ce sont des personnes qui sont allées jusqu'à la banque d'accueil et qui ont demandé un renseignement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent, qui prennent des documents et qui ressortent. Hein. C'est véritablement ceux qui sont... voilà. Et le mois de juillet et août ont été particulièrement porteurs. Puisqu'il y a eu 11 300 visiteurs dans les locaux, avec un pic de fréquentation exceptionnel au mois d'août, avec pratiquement 6 000 visiteurs contre 3 700 en 2012. Voilà, et une nette progression de la clientèle française hors Aquitaine, 43% hein, contre 32% en 2012, et étrangère avec 11% contre 3,5% en 2010. Ou en 2012. Donc je pense que c'est vraiment... voilà, bon, c'est le travail de l'Office hein, qui paye aussi et qui permet de donner de la visibilité à notre territoire et de faire venir les touristes à l'intérieur. Si vous voulez savoir quelles sont les régions françaises qui viennent chez nous, il y a l'Île-de-France 16%, Pays de Loire 9%, Midi-Pyrénées 9%, la Bretagne 8% et Rhône-Alpes 7%, c'est pas mal. Et les nationalités étrangères, l'Espagne 32%, Royaume-Uni 16%, l'Allemagne 13,5%, la Belgique 12,5% et les Pays-Bas 7%. Bon, c'est pas mal, hein. Le nombre de... Alors, l'activité hôtelière du premier semestre 2013 a été très satisfaisante. L'office de tourisme a comptabilisé... Alors maintenant, c'est plus facile puisqu'on a la taxe de séjour. Donc, on peut avoir une vue très précise de ce qui se passe sur le territoire. 87 300 nuitées. Donc, il y a une taxe de séjour qui a engendré un peu plus de 55 000 euros de taxe de séjour. Et 85% de ces recettes sont générées par le parc hôtelier. Donc une fréquentation très importante durant l'été de notre parc hôtelier. L'aire de camping-car aussi, bon, elle a enregistré plus de 1000 transactions. Donc c'est vrai qu'une activité importante. Bon, il faut dire que l'an dernier, elle a démarré, elle démarrait bien sûr plus lentement. Elle venait d'être ouverte à la fin de l'été, ou au début de l'été. Voilà, donc si vous voulez une saison touristique sur le territoire très intéressante, ce qui est important pour tous les commerces du territoire, hein. Les hôteliers bien sûr, mais les restaurateurs, les commerçants en général, et d'ailleurs les commerçants disent très facilement qu'ils ont vu beaucoup de touristes cette année dans la ville de Mont-de-Marsan. Et sûrement de Saint-Pierre-du-Mont et également dans les villages, puisque les touristes aussi, bon, ils font des circuits dans les villages de l'agglo. Vous parlez de menaces, puisqu'on est dans le tourisme, je sais pas, c'est assimilable, il y a beaucoup de personnes qui quand même viennent de notre coin, hein, qui fréquentent menaces. Mais enfin, les chiffres, alors il a fait très beau cet été, hein, mais les chiffres sont quand même excessivement intéressants, puisqu'il y a plus de 67% de fréquentation supplémentaire pour la base de loisirs de Menasse. On est passé de à peu près 45 000 visiteurs en 2012 à plus de 75 000 en 2013. C'est absolument énorme. Avec très gros pic en juillet, 15 000 personnes, un peu moins de 10 000 en août. Donc vraiment, et la provenance des visiteurs, alors 76% de la clientèle, de la fréquentation vient de la région Aquitaine, dont 85% des Landes et 5,5% de la région Midi-Pyrénées. C'est pas mal, ça. Enfin, la région Midi-Pyrénées, si c'est le Gers, c'est pas très loin. Ça fait partie de la région Midi-Pyrénées, si c'est Barbotan ou... voilà. Et les visiteurs étrangers, l'Espagne représente 27% de la fréquentation du site, Portugal 24% et la Belgique 11%. Vous voyez ? Voilà. Et les moyennes d'accès, 92% des visiteurs se rendent à la base en voiture. Ce qui fait... la fréquentation du réseau TEMA a connu une légère augmentation. Et on a mis en place une navette supplémentaire à 13h55 avec une arrivée à 14h20 à la base de loisirs qui a répondu aux besoins et a été le plus utilisée. Bon, voilà. Bon, je crois que les nouveautés 2013 aussi, quand même, ça a été le point information tourisme avec 1500 personnes qui se sont rendues dans ce point information, donc ce n'était pas inutile. L'activité acrobranche et tyrolienne qui a connu 17% des visiteurs de la base qui ont pratiqué cette activité. Et ceux qui ont accepté de répondre aux questions et interroger sur les nouveautés de la base ont émis de très bonnes appréciations, entre 8,3 et 8,8 sur 10. Bon, enfin, c'est un bilan très positif. Il y avait une équipe qui était... très soudé et qui s'est beaucoup investi sur le site, que ce soit pour l'entretien, pour les surveillances de baignade. Et puis, bien sûr, nous avons aussi sur cet équipement la restauration qui fonctionne très bien et qui est, je crois, un atout supplémentaire pour l'attractivité de ce site. Et nous avons donc ce projet pour l'année prochaine de mise en accessibilité pour les handicapés jusqu'au bord de l'eau pour avoir le label Handiplage. Voilà. Bon, j'en profite parce que sinon, juste l'adresse de l'office de tourisme, ça me paraissait être le moment de vous parler un petit peu de ce bilan de l'été. Vous avez des questions, des commentaires à faire là-dessus ? Bon, moi, je ne peux qu'encourager ce qu'on fait. Hein, l'Office de tourisme à poursuivre, à remercier d'abord du travail qui est fait, mais à poursuivre ce travail qui est important. Et bon, il faut qu'on soit mieux visible sur Internet. En fait, tout ça, c'est le travail qui se met en place maintenant, mais je crois que c'est très bien pour l'activité économique de notre territoire. Oui, parce que le tourisme, on en parle toujours comme une activité secondaire. Le tourisme, c'est une vraie activité économique. Hein. On doit parler d'industrie touristique, surtout dans notre département. Bien, la délibération suivante. On passe du coq à l'âne. Hein. Syndicat intercommunal du Moyen Adour landais. Avec l'approbation de la modification statutaire qui porte sur la représentation des communes au sein du comité syndical. Quoi vous dire ? Que dans ce syndicat, trois communes de notre collectivité sont membres, Benqué, Bretagne et Campagne. Et qu'il a été décidé par dans ce syndicat. Ah non, c'est pas ça. C'est ça. Qu'il faut modifier les statuts, puisqu'il y aura seulement, mentionnant le nombre d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par commune, pour la représentation des membres au sein du comité syndical, ramenant ainsi la composition du comité syndical au nombre de 56. Voilà, y a-t-il pas de problème ? Pas d'avis contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Eh bien, justement, il faut que nous, dans la délibération suivante, désignions les délégués titulaires et suppléants pour chaque commune. Alors, je vous propose, il a été demandé, je crois que chaque commune, enfin, Bon, si vous voulez, moi, je suis un petit peu surprise de ce... Je pensais que c'était, en fait, maintenant que l'agglomération était identifiée comme... avait la compétence dans ces syndicats, je pensais que ce serait plus des désignations à partir des communes, mais que ce serait plutôt des délégués communautaires... enfin, des délégués communautaires, c'est pas ça, mais des représentants de l'agglo, mais qu'il y en aurait moins, peut-être, dans chaque syndicat. Bon, enfin, moi, ça m'est complètement égal. Et je pense que, et on a la possibilité bien sûr de nommer des personnes qui ne sont pas déléguées communautaires, mais ça c'est plutôt bien, parce qu'il y avait dans chaque commune des élus qui suivaient ces dossiers, il vaut mieux qu'ils continuent à les suivre, hein. Ils ont la connaissance des dossiers, donc il vous est proposé, je vous propose, alors après accord bien sûr des communes, hein. Ben, de nommer les personnes qui étaient déjà membres de ce... qui s'occupaient déjà des rivières dans la commune. Donc, pour Bretagne, en titulaire, Louis Pascal et en suppléant, Jean-Michel Lamotte. Pour Campagne, Joël Mallet en titulaire et Jean-Marie Bretous en suppléant, c'est ça. Et pour Benke, Jean-Marc Kando en titulaire et Kittery Sarah en suppléant. C'est ça. Voilà. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Oui. On peut passer la délibération sur table pour parler du même sujet. Donc là aussi, alors, il s'agit du syndicat de la Midouze. Où monsieur le préfet, par arrêté du 18 juillet, a acté le transfert de compétences, donc voilà, et où nous avons plusieurs communes concernées, Campagne, Campette-la-Molaire, Mont-de-Marsan, Saint-Martin-d'Aunay, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont. Alors ce syndicat intercommunal, le CIVU, devait être dissous et son périmètre devait être intégré dans un nouveau syndicat élargi à créer. Mais il a été décidé le 2 octobre 2013... pour poursuivre le programme des travaux dans le cadre de la déclaration d'intérêt général qui doivent s'achever en 2015, de maintenir la structure existante. Donc tout ça a reçu l'aval des élus présents et des services de l'État. Si je dis des bêtises, hein, c'est ça, hein. Voilà. Le Marsan Agglomération, qui s'est substitué à ses communes membres, doit donc désigner ses représentants au comité syndical du CIVU Berge de la Midouze. Il faut 2 titulaires par commune dans ce syndicat. Donc, pour mémoire, les titulaires, les personnes étaient, pour Saint-Martin-d'Aunay, Guillaume d'Espagné et Gérard d'Espagné. Pour Campagne, Joël Mallet et Jean-Marie Bretous. Pour Campette-la-Molaire, Benoît Raymond et Patrick Bernos. Pour Saint-Perdon, Jean-Louis Testasté. Non, peut-être que Saint-Perdon va vouloir changer. Oui, mais je dis ce qui existait, et André Labatte. Je finis. Pour Saint-Pierre-du-Mont, Jean-Philippe Prugnot et Patrick Legas. Et pour Mont-de-Marsan, Hervé Bayard et Thierry Socodiabère. Alors, moi, parce que je n'ai pas pu vous consulter avant... Je vais demander commune par commune. Saint-Martin-d'Aunay, est-ce qu'on garde les mêmes? Parfait. Campagne. Parfait. Campette-la-Molaire. Parfait. Saint-Perdon, pas parfait.
C'est-à-dire que Madame Nellig et Monsieur Dupin.
Donc Régine Nellig et Bernard Dupin. Très bien. Pour Saint-Pierre-du-Mont.
Ça avait changé.
Ah. Par Jean-Pierre Desquibes. Donc on le met là. Vous ne voulez pas changer. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre les mêmes. Hein, c'est... Très bien. Donc c'est noté. Et pour Mont-de-Marsan, c'est bon. Bien. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons examiner maintenant un protocole transactionnel relatif à l'indemnisation du cabinet de vétérinaire, la société civile professionnelle Arbouille-Marot-Vicard. Alors, il s'agit de toujours... Alors, c'est un dossier qui n'avait pas été traité auparavant parce qu'on pensait qu'il n'était pas éligible. Il s'agit, vous savez, d'indemniser les commerçants quand il y a des gros travaux, des indemnisations amiables, bien sûr, quand il y a des gros travaux, ce qui était le cas pour l'entrée ouest. Et ce dossier n'avait pas été traité parce qu'il avait été dit que c'était une activité libérale. Et en fait, il y a dans leur activité une activité commerciale. Donc un dossier nous a été adressé que la commission s'est réunie spécialement pour ce dossier, a décidé d'examiner ce dossier et il s'avère donc à fixer l'indemnisation à 522,63 €, ce qui correspond à 27,8% de la perte de marge brute pendant les travaux. C'est le taux qui est appliqué à tout le monde, qui avait été décidé pour tout le monde. Voilà. Des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Tu vas parler un peu. Groupe. Ah oui, c'est vrai. Groupement de commandes. Pour la fourniture de matériel informatique et de matériel de réseau, il faut désigner un représentant du Marsan Agglomération au sein de la commission d'appel d'offres à constituer. Donc c'est un groupement de commandes avec l'AGLO, la commune de Mont-de-Marsan, le CIAS du Marsan et le CCAS de la commune de Mont-de-Marsan. Donc il faut que nous ayons un titulaire et un suppléant pris dans les membres titulaires de la commission d'appel d'offres de notre collectivité, de l'AGLO. Donc je vous propose Pierre Mallet en membre titulaire. Et je dois dire que le membre suppléant a été proposé à l'unanimité par le bureau des maires, mais il n'y était pas, c'est Robert Villetorte. Est-ce qu'il accepte ? Ah, ben il est sympa. Merci Robert. Merci beaucoup. Donc Pierre Mallet, Robert Villetorte. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? S'il n'y en a pas, c'est adopté. Là aussi, autre groupement de commandes pour l'achat de fournitures administratives et de papier. Alors là, c'est toujours pareil, c'est avec un groupement avec la ville de Mont-de-Marsan, l'AGLO, le CCAS et le CIAS. Je dis à toutes les communes, si vous souhaitez participer à ces groupements de commandes, il n'y a pas de problème. Il y a de réelles économies qui sont réalisées. Jusqu'à 50% pour les petites communes. Je vous l'ai dit. Voilà, c'est pas quelque chose de fermé. Donc, je vous propose de désigner les mêmes. Pierre Mallet en membre titulaire et Robert Villetorte en... Merci Robert. Donc, pour la commission d'appel d'offres fourniture administrative et pour la commission d'appel d'offres papier. Pas d'avis contre ? Pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Une décision modificative qui concerne le budget annexe logement. Pierre Mallet.
Bien, cette délibération vous propose d'acter la modification du taux du livret A, puisque l'emprunt qui a servi à financer la construction des logements sociaux de Pellegarry à Saint-Pierre-du-Mont est basé sur le livret A. Alors, l'inscription budgétaire que vous avez fait apparaître une moins-value au niveau des intérêts, ce qui est de 20 000 euros. C'est 20 000 euros, puisque l'annuité constante viendra être affectée sur la part capitale. Alors, je rappellerai pour mémoire que l'annuité globale est d'un peu plus de 300 000 euros. Donc, vous voyez que ce n'est pas neutre. Quand même, le fait de la fluctuation du livret A en moins-value, ça nous permet de rembourser un peu plus de capital. Voilà, Madame la Présidente.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante, soutien aux communes sinistrées des départements des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne. Pierre Mallet.
Suite aux intempéries du mois de juin 2013 qui a frappé plusieurs communes des départements limitrophes, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, les maires et élus municipaux de ces départements ont dû faire face à des conséquences dramatiques qui ne sont pas les mêmes que nous, mais que nous avions, nous, connues, rappelez-vous-en, il y a quelques années, en 2009, avec la tempête. Et je félicite, puisque moi j'étais absent au bureau des maires, mes collègues d'avoir pris cette décision pour avoir passé quelques jours récemment dans les Hautes-Pyrénées. Je vous assure que le tableau n'est pas beau à voir. Donc cette délibération va acter une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour l'association des maires des Hautes-Pyrénées et une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour l'association des maires de Haute-Garonne, si vous en êtes d'accord.
Alors c'est pas à la hauteur des enjeux, bien sûr. Mais je tiens à rappeler quand même que lors de la tempête Klaus, l'association des maires des Landes avait recueilli, venant de la France entière, 350 000 euros, qui n'était pas non plus à la hauteur de ce qui avait été, mais qui a permis de réaliser des actions ensuite, puisque nous avons des équipements téléphone satellitaire, puisque nous avons pu mettre en place les plans communaux de sauvegarde. Et je crois, moi, il me semblait important que nous aussi, nous soyons solidaires de ces départements qui ont eu quand même des moments difficiles à traverser. Il n'y a pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Le partenariat avec la SASP Stade Montois Rugby Pro. Alors, c'est une délibération qui revient tous les ans à la même époque. Il vous est proposé un partenariat avec une subvention affectée à des missions d'intérêt général au sens donc des dispositions de l'article L113-2 du Code du sport, d'un montant de 120 000 euros, avec animation en faveur de la jeunesse, promotion du sport, formation de jeunes joueurs, actions de prévention, etc. Et il y a une convention, bien sûr, qui formalise les obligations du bénéficiaire de la subvention. Et un marché à procédure adaptée, sans publicité, sans mise en concurrence, donc il sera conclu pour une prestation de relations publiques et de communication à hauteur de 110 000 euros TTC. Ce qui vous est donc proposé, c'est 230 000 euros entre et la prestation et la mission d'intérêt général. La convention, alors, qui est moins élevée que l'année dernière, puisqu'en top 14, c'était 300 000 euros. Et vous avez avec la délibération, les rapports de mission, ce qui a été réalisé dans le cadre des missions d'intérêt général. Et d'ailleurs, je dois vous dire que si vous avez des actions, même y compris dans vos communes, que vous souhaitez mettre en place, des initiations sportives, des actions dans les écoles, dans vos écoles, des actions d'intégration sociale, par exemple aussi dans le cadre de la politique de la ville, travail sur les métiers du sport, etc. Vous n'hésitez pas à le faire savoir, parce que c'est tout à fait possible de relayer ces demandes au niveau du club. Voilà. Bien, alors je sais qui va être contre, mais y a-t-il des questions, Monsieur Messrich?
Madame la Présidente, merci. Bon, écoutez, moi je veux être assez court dans mon intervention. Je m'étais déjà exprimé, moi, sur ce dossier, et je le redis ici. Moi, je ne suis pas opposé au principe d'une subvention au rugby pro. Hein. Que les choses soient parfaitement claires. En revanche, moi, ce qui me gêne, c'est la somme que vous nous proposez de délibérer ce soir quant à votre engagement que vous avez pris il y a quelques mois. En effet, vous l'avez dit, c'est une délibération qui revient chaque année, qui fait parfois débat. Et moi, je me souviens que dans le cadre d'un bureau des maires, Monsieur Le Tyran, maire d'une commune de notre collectivité, vous avez posé une question ? Une commune, elles sont toutes importantes, les communes de la collectivité. Vous avez posé une question extrêmement simple, avec une interrogation qui était légitime, c'est que se passera-t-il si le Stade Montois, l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, redescend en Pro D2 ? Et vous l'avez répondu de façon assez claire, que la subvention sera divisée par deux. Alors bon, 300 000 divisé par 2, pour moi, ça fait 150 000, et ça ne fait pas 230 000. Bon, voilà, moi, je voulais simplement dire qu'à la lecture de cette délibération, vous ne tenez pas votre engagement que vous avez pris dans le cadre du bureau des maires, et je le regrette profondément. Alors pour cette raison, et uniquement pour cette raison, je le redis bien, je préfère m'abstenir sur ce projet de délibération que vous nous proposez. Merci.
Très bien. Parfait. Monsieur Ducos.
Oui, j'ajoute à ça que, effectivement, c'est ce qui avait été dit l'an dernier. On parlait du grand rayonnement si on était en top 14. Bon. Les résultats ont fait qu'on n'y est plus, que le rayonnement est forcément moindre. J'ajouterai que bon, cette somme est terriblement importante. Avec notre commune de l'agglomération, nous avons mis en place un challenge pour la course landaise avec 7 autres communes, celles qui ont des clubs taurins qui font des courses landaises. Et nous avions demandé de participer à la mise en place de ce challenge pour la somme énorme de 5 000 euros. Et on nous a dit non, on ne peut pas. Un peu bizarre de la part de la présidente des villes taurines de France, mais enfin bon, c'est comme ça. Et là, on voit que pour ça, on peut effectivement dire d'abord, on diminuera de moitié, non, on ne diminue pas de moitié, mais même pour d'autres actions qui sont toutes aussi valables que le sport professionnel, on refuse totalement de participer à une subvention.
Très bien. Bon, alors, je ne sais pas, il y aura sûrement d'autres interventions. C'est toujours quand je dis que c'est le marronnier, c'est aussi le marronnier dans les interventions des uns et des autres. Et ce sont toujours les mêmes qui sont à l'affût de ce pauvre Stade Montois que soutiendrait la présidente contre vents et marées et qui ne tiendrait pas sa parole. Alors, figurez-vous que je ne me souviens pas du tout avoir dit... Moi, ce sera de moitié. Peut-être que quelqu'un a dit ce sera divisé de moitié. J'ai dit oui, on verra. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'assume ce que je vous demande aujourd'hui, point à la ligne. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Ce que je sais, c'est qu'on a un club voisin de 50 km où l'agglomération aide à hauteur de 400 000 euros. Donc on n'est même pas à ce niveau-là. Donc je vous dis très simplement... que moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec l'aide minimale des collectivités par rapport à tous les autres clubs en rugby professionnel, on a maintenant un club qui est relativement pérennisé sur le plan financier, que c'est le seul club, ils n'ont pas réussi en résultat sportif, mais ils ont au moins réussi en résultat financier, c'est le seul club qui a terminé à l'équilibre, voire en très léger excédent l'année dernière, qui a eu les filiales, enfin en 2013, là, cette année, qui a eu les félicitations de la DNACG, mais la DNACG, elle donne des félicitations en privé, rarement en public, parce qu'en public, en général, elle tape sur ceux qui ne vont pas bien. Donc, moi, je suis satisfaite qu'il y ait une équipe dirigeante qui ait stabilisé les finances de ce club, malgré une aide publique qui est une aide publique minimale, je peux vous le dire, par rapport à de très nombreux autres clubs. Donc j'assume ces 230 000 sans aucun problème, c'est ce que je demande. Quant à comparer ça avec le challenge de la course landaise, monsieur Ducos, nous n'avons pas la compétence sport qu'à la course landaise par exemple, hein. Bien sûr, je suis désolé, mais nous n'avons pas la compétence sport dans notre collectivité. Si vous voulez que nous prenions la compétence sport, je vais vous dire, Je pense que c'est une erreur monumentale à l'heure actuelle, parce qu'on peut la prendre, mais alors là, les subventions, vous allez savoir ce que c'est. Mais ce n'est pas la même chose, monsieur Ducos, vous le savez très bien, ce sont des prestations de services et de la communication autour de ce club. Ce n'est pas du tout, on ne parle pas du tout de la même chose. Vous comparez, je ne sais pas, des choses qui ne sont pas du tout comparables. C'est pour ça que j'ai dit non à ce challenge-là. Et nous n'avons pas, en plus, de compétences particulières. J'ai beaucoup d'associations qui me demandent. Eh oui. Mais, alors, moi, il va falloir un jour que l'on arrête avec le maquis des collectivités, que l'on sache qui fait quoi et qui s'occupe de quoi. Des associations de toutes sortes qui demandent si l'agglomération ne va pas participer à leurs frais, souvent de fonctionnement. Eh bien, je dis non. À l'heure actuelle, non. Nous n'avons pas ces compétences-là. L'agglomération, c'est une collectivité qui a de lourds aménagements à mener et nous ne pouvons pas. Si un jour nous prenons la compétence sport, il y aura certainement des transferts. Hein ? Qui viendront de toutes les communes qui s'occupent de sport et qui donneront les moyens à la collectivité d'assumer cette compétence. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc moi, je pense que c'est véritablement communal. Mais vous pouvez très bien organiser un challenge de course landaise entre les communes qui participent à ce challenge, et ce n'est pas un très, très gros investissement. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez le faire, il y a un règlement qui est toujours en cours, qui avait été mis en place il y a quelque temps, moi je l'ai toujours connu, il existait avant que je sois présidente, d'aide aux communes sur un événement culturel, et bien que chaque commune donne ce challenge aux courses landaises et qui souhaite y participer sur cette ligne-là. Donc il y a une possibilité, c'est à vous de la saisir. Voilà. Mais sinon, me paraît difficile de rentrer avec les missions que notre collectivité a, de rentrer. C'est vrai que c'est un choix délibéré. Nous sommes là pour investir, aménager le territoire. Nous avons de très gros investissements à assumer sauf s'il y avait véritablement un vrai transfert avec les transferts des communes vers la collectivité, à ce moment-là nous pourrions le faire, mais là nous ne pouvons pas. Bien. Qui est d'avis de voter contre, monsieur Pestegui? Oui, monsieur Tortigue.
J'approuve totalement votre délibération, mais je ne prends pas part au vote. Vous savez pourquoi?
Donc Bertrand Tortigue ne prend pas part au vote. Monsieur Apestegui vote contre. Qui encore? Monsieur Ducos. Monsieur Villetorte. Monsieur Villetorte, deux voix. Donc 1, 2, 3, 4. Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres élus de Saint-Pierre-du-Mont. Monsieur Moulian, ça fait 7. Et donc voilà. Cette délibération est adoptée et je vous remercie. Donc je vous redis que le Stade Montois Rugby a proposé de mettre autant de fois qu'on le souhaite à disposition des joueurs pour les animations que vous souhaiteriez, y compris dans votre commune, dans vos communes. Tout ne se passe pas forcément à Mont-de-Marsan. Hein. Voilà. Ils réfléchissent aussi à des animations au niveau de la... On peut réfléchir au niveau de la médiathèque... sur la mobilité, la plateforme sociale, pourquoi pas, et dans vos communes si vous avez des besoins. Je vous remercie. Transfert de la garantie d'emprunt accordée à l'association LISA au profit de l'association laïque du Prado. Alors ça, c'est pas très compliqué. Nous avions accordé une garantie d'emprunt pour LISA. Et LISA, en fait, n'est pas... Enfin, s'appelle toujours LISA, mais ce n'est pas la même association, puisque c'est maintenant l'association laïque du Prado qui gère LISA à Mont-de-Marsan. Donc c'est simplement, on change le nom, mais la délibération, enfin, on confirme notre garantie, voilà, c'est tout. Pardon, je serais plutôt laisser parler, ça m'a économisé la salive. Y a-t-il des questions là-dessus? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Pierre Mallet, à propos des modalités de prise en charge de repas pour le personnel en mission sur le territoire du Marsan Agglomération.
Bien.
Cette délibération vous propose d'acter une décision qui a été validée par le comité technique paritaire. Et il s'agit de la prise en charge des repas pour le personnel en mission sur le territoire du Marsan Agglomération. En effet, depuis 2003, les agents qui effectuent des missions sur le territoire bénéficiaient d'une compensation financière pour frais de repas. Au fil du temps, cette indemnité avait été assimilée par le personnel comme partie intégrante du régime indemnitaire. Le comité technique paritaire a approuvé la constitution d'un groupe de travail pour améliorer et réfléchir à un nouveau dispositif. Plusieurs réunions se sont tenues et une solution a été proposée, c'est de permettre aux agents de prendre un repas chaud sur le lieu de leur travail ou de leur mission. Le CTP a validé cette nouvelle proposition et la délibération vous propose aujourd'hui de mettre en application cette nouvelle disposition.
Bien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La signature d'une convention tripartite entre l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, Éclat et le Marsan Agglomération pour l'adhésion de la médiathèque au plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine et d'une convention bipartite entre l'Université de Bordeaux et le Marsan Agglomération pour le signalement dans le système universitaire de documentation, le SUDOC, et publication en série conservée dans la médiathèque. Bon, vous avez lu cette délibération. En fait, il s'agit de fonds, hein, conservation, voilà. Il y a des périodiques que nous conserverons ici qui sont d'intérêt aquitain et que nous conserverons ici et qui seront répertoriés auprès de tous les spécialistes de ce type d'archivage qui seront consultables, donc voilà. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Sinon je peux lire tout, mais voilà. Pas de vote contre. Surtout qu'il y a quand même pas mal. Vous avez vu la liste des les titres, hein, les bulletins de la Société de Borda, la Casérienne, la Corrida, Tendido. Bon, voilà, il y a des choses qui concernent notre territoire et qui ne vont pas forcément être conservées ailleurs. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La transformation d'emploi dans... On arrive presque à la fin. Dans le cadre d'avancement de grade, Pierre Mallet.
Alors, c'est la délibération que vous aviez sur table. Qui est modifiée.
En rouge.
Hein ? Alors la modification a été inscrite en rouge pour que chacun comprenne la modification. Donc cette délibération vous propose la transformation des emplois ci-dessous dans les conditions suivantes. Il y a un emploi d'ingénieur à temps complet, un emploi d'ingénieur principal à temps complet, un emploi d'agent technique principal première classe à temps complet, un emploi d'agent de maîtrise à temps complet. Donc ce qui a été rajouté, c'est un emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet, un emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de deuxième classe à temps complet et un poste d'assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques principales de deuxième classe à temps complet, un emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de première classe à temps complet. Voilà. Voilà, Madame la Présidente.
Y a-t-il des questions ?
Il faut dire que ce ne sont pas des embauches.
Ce ne sont pas des embauches, non. Ce sont des personnes qui évoluent dans leur carrière. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération est aussi une délibération de ressources humaines. Pierre Mallet.
Donc c'est la création d'un emploi de technicien de spectacle pour le pôle culturel. Après étude des besoins au pôle culturel, il paraît opportun de créer un emploi de technicien de spectacle. Les spécificités de cette fonction ne permettent pas de recruter un fonctionnaire. Aucun cadre d'emploi de fonctionnaire n'est susceptible de correspondre à ces fonctions. Il vous est donc proposé de recruter un technicien de spectacle pour le pôle culturel au grade de technicien territorial, un emploi à temps complet, recruté par voie contractuelle, pour une durée de 3 ans. La rémunération de l'intéressé bénéficiera de régime indemnitaire appliqué au cadre d'emploi. Voilà, c'est aussi une continuation de ce qui est déjà en place.
Oui, c'est pas quelqu'un de nouveau, c'est la poursuite d'un contrat. Y a-t-il des avis contre, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Bien, nous avons terminé notre ordre du jour. Personne n'a rien à... Voilà, il n'y a pas de questions diverses qui ont été annoncées en tout cas. Ben écoutez, je vous remercie de votre participation. Record battu, pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il faut signer une feuille d'émargement.
Tout le monde a signé par nous ici.
Ah, par nous. Bon. Alors, ils l'ont signé, pas nous. C'est la table, là. Bien, merci beaucoup.